Je donne la parole à Vincent Le Callonec, le spécialiste du chiffrage du monde dans lequel nous sommes et de l'interprétation que l'on peut en avoir.
Oui, mais je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous assommer de chiffres et parler donc plus un peu la façon dont, d'une part, j'ai vécu, contribué à ce travail du CESR. D'autre part, effectivement, ce que l'INSEE peut fournir, proposer dans la pratique, dans la réalisation de telles démarches. Donc, je vais parler de l'INSEE, mais pas trop, et j'espère de façon pas trop décalée par rapport à tout ce qui a été dit. Donc, l'INSEE, je n'ai pas besoin, a priori, de le présenter, contrairement à ce qui a pu être fait pour le CESR. Bon, c'est bien connu par l'impact médiatique qu'il a. Bon, vous avez vu normalement au cours de ces dernières journées un certain nombre de personnes de l'INSEE, que ce soit des personnes en activité à l'INSEE ou ayant quitté l'INSEE il y a quelques années ou beaucoup plus longtemps. Bon, vous avez aussi peut-être répondu à un quiz de la statistique. Et dernier point à signaler, vous avez peut-être reçu aussi un tract des personnels de l'INSEE, l'activité sociale de l'INSEE étant un peu agitée par les temps présents. Que dire, quand on m'a proposé de participer à cet exercice, j'étais moi-même tout nouveau dans la région, j'étais là depuis quelques jours, donc il m'a fallu un peu réfléchir, est-ce que j'y participe? Bon, ça ne m'a pas demandé beaucoup de temps, à vrai dire, et donc j'ai dit rapidement oui. Alors pourquoi? Parce que le CESR, donc le Conseil économique et social régional, bon, est pour nous un partenaire pleinement légitime. L'INSEE en région travaille avec les grands acteurs publics, donc que ce soit service de l'État ou collectivité locale, et donc le CESR, deuxième assemblée de la région, est de ce point de vue-là un partenaire tout à fait légitime. Bon, le CESR est un partenaire de niveau régional, donc un grand partenaire. Donc si ça donnait un autre élément positif, je dis ça parce que nous sommes souvent sollicités pour participer à des observatoires dans des territoires de pays ou autres. Malheureusement, nous n'avons pas toujours les moyens pour y répondre favorablement et souvent nous déclinons ces invitations. Bon, enfin, le CESR est un partenaire donc naturel, mais également habituel et régulier de l'INSEE, notamment par exemple pour l'étude de la conjoncture régionale. Alors ça, c'était déjà un premier champ de raison pour dire oui. Un deuxième champ de raison était que les conditions de participation à l'exercice étaient tout à fait claires. Donc moi-même, j'y ai participé en tant qu'individu, certes directeur de l'INSEE Rhône-Alpes, mais l'INSEE en tant que tel n'était pas engagé. Bon, il faut savoir que si l'INSEE travaille en région essentiellement en partenariat avec les acteurs publics, il le fait, j'allais dire, toujours un peu sous sa casquette, dans des documents qu'il signe, et souvent édités sous son logo. Donc je dis ceci pas pour m'éloigner du travail qui a été fait, mais pour bien dire que ce sont les équipes du CESR qui l'ont produit. L'INSEE, en tant qu'équipe force de travail, n'y a pas contribué, donc il faut rendre hommage aux équipes du CESR sur ce point. Bon, autre point aussi de clarté du mandat, hein, c'est que ce rapport du CESR, enfin ce document du CESR, n'a pas donné lieu, ce qui est souvent le cas, ce qui est le cas général des rapports du CESR, à un vote par le CESR, avec des fois quelques oppositions, souvent une recherche de consensus, mais des fois quand même tous les votes ne sont pas forcément tous dans le même sens. Bon, c'est vrai que si ce document avait été soumis à un vote, ça aurait été un peu gênant peut-être pour y participer. Bon, même si encore une fois, je ne représentais pas tout l'INSEE. Bon, l'INSEE tient à son indépendance. Hein. C'est une indépendance qui, dans notre déontologie, existe depuis bien longtemps, qui maintenant, depuis quelques mois, est reconnue par la loi. Donc c'est clair que cette indépendance est d'autant mieux reconnue, préservée, que l'on reste en dehors des joutes partisanes. Donc c'est vrai que contribuer à un rapport qui aurait été soumis ensuite à un vote, éventuellement avec des débats partisans, ça aurait pu être un peu gênant, mais tel n'était en l'occurrence pas le cas. Bon, enfin, dernière raison pour participer à l'exercice, c'est que l'INSEE est heureux et a vocation de contribuer à des réflexions prospectives d'acteurs publics. Alors je dis bien contribuer à des réflexions prospectives parce que il pourrait sembler naturel, peut-être croit-on même que l'exercice mène des exercices de prospective, mais cela n'est pas le cas, l'INSEE ne fait pas de tels exercices. Donc l'INSEE fait des prévisions économiques à court terme, donc des prévisions généralement à horizon d'un semestre, mais ne va pas au-delà, ne s'aventure pas au-delà dans des prévisions économiques de moyen ou long terme. Bon, l'INSEE fait aussi des fois des simulations de long terme hein, sur des problématiques bien définies avec des modèles macro ou microéconomiques. Mais là, encore une fois, ce sont sur des champs restreints et il ne s'agit pas d'exercices qui embrassent aussi largement que l'exercice de prospective qui a été montré. Bon, l'INSEE, enfin, fait des projections hein, de population, notamment, tant au niveau national que régional. Mais ces exercices de projection sont des exercices mécaniques hein, où l'on explore les conséquences, j'allais dire, mathématiques, directes, physiques, d'hypothèses possibles. Bon, sachant que l'on s'efforce de choisir des hypothèses plausibles, mais néanmoins, c'est un exercice, là encore, assez mécanique. Donc, voilà. Mais tout ce qui explique, en tout cas, les raisons pour lesquelles j'ai dit oui à l'exercice. Alors, sur la participation, hein, M. Otamer en a parlé. Bon, je pense que moi, j'ai apprécié aussi beaucoup de choses. Bon, nous étions, j'étais un naïf, hein, finalement, de la prospective. Hein. Encore une fois, l'INSEE n'avait pas de mots particuliers à dire sur le sujet. Mais être naïf, je pense que nous l'étions tous un peu au départ par rapport à la façon même de mener l'exercice. Et ça a été vraiment une alchimie qui a bien fonctionné. Alors, ce que j'ai apprécié, bah, c'est le travail avec méthode. Hein, Monsieur Attamer en a parlé. Ça a été quand même un travail lourd avec des documents importants. Donc, les documents distribués ce matin, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Mais il y a eu un travail, notamment sur les fiches variables qui ont été signalées, qui était tout à fait lourd, tout à fait important. Et donc ça, ben, j'ai pu apprécier. Bon, j'ai apprécié notamment que dans ce travail lourd sur les fiches variables, si c'est pour moi qu'on le fait, mais non, ça va, voilà. Merci. Donc j'ai apprécié ce travail lourd. Bon, d'autant plus, effectivement, ben, j'ai pu constater que l'INSEE, les travaux de l'INSEE, ben, étaient une source utilisée, je dirais abondamment utilisée. Ce n'était pas la seule, bien évidemment, par les équipes du CESR. Et ça nous fait toujours plaisir parce que ben, ce que l'on produit, on le met souvent sur notre site Internet. On voit les nombres de téléchargements qui sont très importants, mais on ne sait pas toujours qui prend nos travaux, qui les utilise. Et là, en l'occurrence, ben, on a vu que c'était effectivement employé et très bien employé pour cadrer notamment certains points. Je pense aux points, bien évidemment, démographiques, à des points économiques, à des points sur l'immigration, etc. Donc, ceci, c'était effectivement un point tout à fait positif. Bon, le point le plus positif, bon, et le terme a été prononcé, je crois, par M. Attamer aussi, hein, c'est l'intelligence collective qui s'est manifestée. Alors, ça peut sembler un peu prétentieux, pompeux de dire ça, mais là, c'est vrai que j'ai vu vraiment un peu le travail tel qu'il se passe dans un CESR. Jusqu'à présent, j'avais plutôt été auditionné par un autre CESR. J'avais pas vu ce travail en action, et c'est vrai que ça, c'était effectivement tout à fait plaisant. Chacun des membres venant avec ses compétences propres. Alors, c'est sûr que le médecin, il est plutôt préoccupé par les problèmes de santé, le directeur de musée, plutôt par la culture. Le président du CESR, lui, est plutôt préoccupé par la prise en compte par le politique des aspirations, des attentes de la société civile, le politique étant un terme générique, hein, ça ne désigne pas une personne particulière. Donc tout ceci, en fait, contribuait à enrichir les débats avec donc une qualité d'écoute tout à fait importante. Alors là, je suis très positif. J'ai entendu Bernard Pouillet dire qu'il a aussi à des critiques. Alors, je vais peut-être en faire une sur le sujet. Bon, il a insisté lourdement dessus, donc c'est pas quelque chose qui est caché. C'est que finalement, dans les scénarios, il y en a un qui est peut-être trop positif, trop vertueux. Il l'a qualifié de rose. Donc, moi, à titre personnel, je trouve ça un peu dommage qu'il y ait un scénario qui ressorte peut-être un peu trop des autres. En plus, c'est le numéro 1. Bon, alors, je ne dis pas que tous les scénarios auraient dû être négatifs ou avoir des choses... parce que par les temps qui courent, il vaut mieux quand même rester un peu positif. Là où je trouve ça un peu dommage, c'est que faut pas que ça empêche d'avoir la réflexion et là, sur les scénarios. Quoi. Autrement dit, il ne faut pas dire le 1 c'est le bon et les autres on les oublie. Tous les scénarios de ce point de vue-là sont aussi utiles, aussi pertinents sur ce sujet. Donc, il ne faut pas s'abstenir, une fois qu'on a lu le document de 4 pages, de dire « bon, ben, on retient le 1, on lit que celui-là et les autres, on les oublie, tous sont aussi intéressants ». Alors, sachant que sur ces scénarios, hein, c'est un peu la même chose que quand on fait, nous, des scénarios, alors là, de projection, on a aussi tendance à demander ben, quel est le bon, quel est celui qui va se réaliser. Bon, ben, pour les projections comme pour ces scénarios, c'est une question qui n'a, d'une certaine façon, pas grand intérêt. Hein. Alors moi, quand on me pose la question pour des scénarios de projection, j'ai toujours un peu la même image pour répondre, c'est celle d'une voiture qui roule dans la nuit, avec les phares qui éclairent la route devant elle. Ben, les phares, ils éclairent ce qu'il y a devant la voiture, mais ce n'est pas parce que les phares éclairent quelque part que la voiture est obligée d'aller là où les phares éclairent. Notamment si les phares montrent qu'il y a un virage avec un précipice au bout du virage ou qu'il y a un obstacle au milieu de la route, et ben, la voiture doit l'éviter. C'est un peu ça, les scénarios. Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, un scénario est autant utile, voire davantage utile, s'il ne se réalise pas, et s'il, justement, montre un obstacle, montre des difficultés qu'il s'agit, justement, de contourner. Donc voilà un peu ce que je voulais dire en point critique, mais je vois que Bernard Pouillet approuve un peu cet esprit. En tout cas, Julien disait bien qu'il ne fallait pas s'arrêter au premier scénario, et ça, je tiens à insister là-dessus. Bon, dernier point pour parler un peu de l'INSEE quand même. Bon, que peut apporter l'INSEE dans ses démarches prospectives en général? Bon, déjà, l'INSEE offre un service général d'information et d'analyse sur la situation économique, démographique et sociale. Donc déjà, savoir où l'on est, d'où l'on vient. Bon, c'est quelque chose qui peut sembler simple et évident, mais je vous rappelle... Tout simplement, au mois de juin dernier, hein, l'INSEE a publié une note de conjoncture dont le titre était « Baisse de régime ». À l'époque, tout le monde disait « l'INSEE est exagérément pessimiste ». Donc déjà savoir où on est et ce qui se profile à très court terme, c'est déjà bien et assez positif. Donc par rapport à donc, savoir où on est, savoir... qui l'on est. Bon, l'INSEE en région réalise aussi un certain nombre de travaux, donc particulièrement des observations, des diagnostics de territoire. Donc on en trouve par exemple sur le site de l'INSEE ou sur le site de la région pour laquelle notamment nous avons mené des analyses sur tous les territoires contrats de développement Rhône-Alpes. Bon, également aussi, on a donc, comme je le disais, des réalisations d'exercices de projection. Donc il s'avère, par exemple, actuellement que nous faisons des projections au fur et à mesure avec pratiquement tous les conseils généraux de la région, donc tous les départements. Donc la Loire est le dernier qui est sorti, l'Isère sera le prochain. Donc comme j'ai dit, ces scénarios de projection, ce n'est pas des scénarios qui... sont les scénarios de l'INSEE, en l'occurrence, on les fait en partenariat avec des acteurs publics, donc ils nous disent, ben, voici un peu quelles sont nos hypothèses, dites-nous ce que ça nous donnera à l'arrivée. Donc on fait très volontiers cet exercice, on discute avec eux les hypothèses, on prend quand même des hypothèses plausibles, on ne fera pas des choses que l'on juge déraisonnables, irréalistes, mais on le fait en tout cas volontiers. Donc voilà, alors ces projections, ça peut être des projections de population, mais aussi bien de population active, de ménages par rapport à la question de l'offre de logement, de population active ou de jeunes par rapport à des questions d'offre de formation en particulier. Bon, ça peut être aussi, on a fait ça avec certains conseils généraux, des projections de population de personnes âgées potentiellement dépendantes, tout ceci par rapport à la réflexion sur l'offre de soins, l'offre d'hébergement collectif en la matière. Donc voilà des offres que nous avons. Bon, nous avons également d'autres propositions, des fois, que nous faisons et qui sont, j'allais dire, détournées dans un objectif de prospective. Donc, par exemple, nous avons une prestation proposée qui, au niveau de l'INSEE, j'allais dire, marche bien, souvent demandée. Alors, nous-mêmes, en Rhône-Alpes, nous ne l'avons encore jamais mise en œuvre. Alors, c'est une proposition qu'on appelle, dans notre jargon, AT14bis. Alors, AT14bis, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, sous un terme plus clair, c'est ce qu'on appelle... l'inscription territoriale d'un établissement, ben c'est tout simplement dans une région où il y a certains établissements d'importance, c'est de regarder ben, tout leur impact social en termes d'emploi direct, indirect, induit. Alors il y a des définitions précises derrière ces termes parce qu'à l'INSEE on aime bien les choses précises. Et de voir également ben, justement l'impact géographique, cartographié, ben, justement jusqu'où peut aller l'influence territoriale de cet établissement. Alors c'est clair qu'à l'origine c'était plus dans un but peut-être de connaissance qu'il avait été fait. De fait, on s'aperçoit que la demande est plus justement de dire quelles seraient les conséquences éventuelles d'un impact majeur sur tel ou tel établissement en termes de conséquences. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on vend actuellement dans le cadre des restructurations militaires. On le vend aussi notamment dans des régions qui ont des entreprises automobiles importantes. Voilà, donc par exemple des prestations qui peuvent ensuite servir à, sinon éclairer les scénarios de prospective, mais peut-être ensuite à quantifier un peu, à voir à ce qui peut être fait en la matière. Donc je ne développe pas plus, parce que sur l'offre de l'INSEE, il y aurait beaucoup à dire. Voici ce que je voulais dire en tout cas en première
Merci approche. Pour votre contribution, Vincent Le Callonec. Alors, quatre exposés, très riches les uns et les autres, un avenir tout aussi incertain, mais mieux profilé, vraisemblablement, mieux éclairé. Notre présent, qu'en est-il ? Il est glacial, oui, c'est vrai, mais aussi glissant et fuyant. Je dis fuyant parce que il est 10 heures pratiquement. Et c'est l'heure à laquelle nous devions nous séparer. On ne va pas le faire. On ne peut pas le faire. On n'a pas le droit de le faire. Pour ceux qui le souhaiteraient, le temps des questions est venu et le temps des réponses, évidemment, accompagne les questions posées. Que ce soit sur la méthode, que ce soit sur les objectifs, que ce soit sur les différents scénarios, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Qui sollicite la parole ? Deux micros, je crois, sont à votre disposition et deux personnes sont là pour les mettre à votre disposition. S'il vous plaît, monsieur.
Henri Jacquot, conseiller régional. Le président Lacroix a indiqué que le travail du CESR rejoint la démarche engagée par le conseil régional de prospective et de démocratie participative qui s'appelle Rhône-Alpes 21. Je ne vais pas ici voir et en quoi justement ça rejoint. Je voudrais simplement interpeller sur deux questions qui me semblent, parce que sur l'ensemble des objectifs, l'ensemble de la démarche, il y a des convergences très fortes. Il y a deux aspects. Il y a une petite interrogation de ma part, ça n'a pas été donné par les intervenants, c'est la dimension de la démographie. Pourtant, le Conseil économique et social régional avait fait une étude déjà prospective en matière de démographie. La question est tout de même décisive à l'horizon 2025. Je pense au rapport entre les générations. Je pense au rapport important entre les hommes et les femmes d'ici 2025. Première question. Deuxième question, un approfondissement sur la question de gouvernance. Parce que je pense qu'effectivement, on est là au pivot quand même de ce sur quoi, éventuellement, on a une marge de manœuvre. Parce que c'est vrai qu'il y a un contexte international. Et j'ai un peu le sentiment qu'il y a une double dimension dans cette dimension de gouvernance. Il y a à la fois la marge de manœuvre que la région ou les régions auront ou n'auront pas, ce que Bernard Pouillet appelait la capacité à agir, commission Balladur. Et c'est vrai que ça va être quand même très structurant sur la manière dont la région va s'emparer ou non de cette capacité à agir. Et là, on retrouve un autre aspect qui est la capacité ou non d'aller vers une démarche associant l'ensemble des décideurs politiques, mais aussi économiques et sociaux, et puis le mode de rapport entre société civile organisée et société civile. Alors, vous appelez désorganisée dans une colonne, j'aurais plutôt dit non organisée, mais voilà, je ne vais pas renvoyer sur des débats que nous connaissons bien.
Merci pour ces questionnements. Bernard Pouillet, donc, premier élément sur la démographie régionale.
Oui, sur la démographie régionale, finalement, là, je parle sous le contrôle de M. Le Callonec, mais la démographie, on la rencontre à deux niveaux en ce qui nous concerne. D'abord, dire que 2025, on est dans une démographie 2025-2030 relativement prévisible. Donc, on est dans une région à peu près à 7 millions d'habitants. On est dans une région dont la population vieillit, mais vieillit plutôt moins que la moyenne nationale. Et la deuxième question qui est essentielle, c'est comment va évoluer la variable de l'immigration. Et ça, je crois que dans chacun des cas de figure et je pense qu'effectivement, on n'aura pas la même région selon les politiques d'immigration qui s'organiseront à l'échelon international, à l'échelon européen, et évidemment à l'échelon national, puisque aussi bien une région en la matière, même si on considère qu'elle va avoir des compétences élargies, ne va pas vers une véritable prise. Donc on est quand même dans une idée, les études qu'on... les éléments statistiques que l'on a repris et les prévisions démographiques que l'on a repris de l'INSEE, c'est quand même l'idée d'une région dont, où l'immigration, alors je ne me prononce pas sur la nature de l'immigration, mais où l'immigration à la fois nationale et étrangère est plus forte que sur la moyenne, par rapport à la moyenne nationale.
Ce qui veut dire, en fait, par rapport à la question très synthétique de M. Jacquot, que la dimension démographique a bien été prise en compte dans les fiches variables. Donc, si vous prenez le bouquin complet avec les fiches variables, vous trouverez la dimension démographique dedans. Elle est intégrée.
Vous avez pris la parole, vous la conservez. Il y avait une question sur les modalités d'une bonne gouvernance.
Oui, j'allais dire qu'en fait, aujourd'hui, si on prend... le contexte international et les différentes variables et les scénarios, on pourrait dire, contrairement peut-être à ce qui a été posé, que l'idéal c'est le scénario rose. Moi j'aurais tendance à dire aujourd'hui qu'on a tous les ferments présents du scénario le plus noir. Aujourd'hui. On a tous les ferments du scénario le plus noir. Ce qui est intéressant à travers le travail qui a été fait, c'est de voir comment on peut éviter le scénario noir et quels sont les éléments de levier qui permettent de passer du scénario noir au gris, au blanc et si possible au rose. Et c'est là où les éléments de gouvernance, je crois, sont particulièrement intéressants et importants. Alors c'est vrai que les régions peuvent être dotées de par la loi d'un certain nombre de moyens, de pouvoirs et autres différents. Ce qui viendrait se surajouter et faciliter peut-être les choses, mais il me semble en tout état de cause, et si je fais référence à une expérience, j'allais dire côté économique, qu'est-ce qui fait la grande différence entre les entreprises qui marchent et les entreprises qui marchent moins bien? C'est la façon dont elles sont menées. Et quand on regarde la différence dans la façon dont elles sont menées, c'est qu'elles sont menées en général par... des responsables qui sont assez visionnaires, ce qui veut dire derrière visionnaire, en réalité, qu'il y a peut-être toute la partie implicite ou explicite de ce travail de prospective qui donne le côté visionnaire. Mais il y a une deuxième dimension derrière le côté visionnaire, c'est d'avoir la vision et puis ensuite de la partager, de la faire partager, c'est en fait de la transformer en projet. Et de façon complémentaire, c'est de faire partager le projet, c'est d'être rassembleur. Ce qui veut dire que la gouvernance est primordiale, car une région peut avoir plus de pouvoir ou non, mais il y a une façon d'avoir la relation avec les autres collectivités qui fait qu'on peut être dans une position d'animation dynamique et finalement arriver à un résultat assez similaire, c'est de la gouvernance. Il y a la façon d'associer les différents acteurs et partenaires au projet et à la vision. Et il me semble dans ce domaine-là qu'il ne peut pas y avoir de passage du scénario le plus noir au scénario le plus rose sans qu'il y ait une vision commune de l'ensemble des décideurs économiques et des décideurs politiques sur un projet commun qui permet le développement du territoire à partir d'un développement économique. Donc c'est vraiment de la gouvernance et du mode de comportement dans le cadre de la gouvernance, que les choses, à mon avis, passent d'un côté positif ou restent du côté négatif.
Une autre prise de parole sollicitée.
Merci, je suis Jean-Michel Charpin, ancien commissaire au plan et président de l'Association française de sciences économiques. Je voulais vous dire d'abord que j'ai beaucoup apprécié votre présentation, notamment celle de M. Pouillet, et que je trouve que l'exercice que vous avez mené est à la fois rigoureux, participatif, imaginatif, et que c'est un exercice prospectif de très très grande qualité que j'ai beaucoup apprécié. Je voulais vous poser la question suivante. L'exercice est très centré sur le niveau régional, ce que je peux comprendre compte tenu du fait que le maître d'ouvrage en était le CESR et qu'il est positionné à ce niveau-là. Ceci dit, dans la pensée économique, tant en termes économiques que sociaux, le fait urbain, la logique urbaine, joue un rôle absolument décisif. En termes économiques, c'est au sein des zones urbaines que s'organisent les synergies, les externalités de proximité qui vont expliquer le succès ou l'échec. Et en termes sociaux, là aussi, c'est souvent par rapport à la logique urbaine que les analyses sont menées. Or, dans cette région, vous avez des très grandes villes, des très grandes zones urbaines qui ont leur propre rôle. Et j'imagine que même si ce n'était pas apparent dans la présentation, le fait d'avoir une ville aussi importante que Lyon, d'avoir une ville aussi importante que Grenoble dans la région, c'est quelque chose qui normalement devrait jouer un rôle tout à fait décisif dans la détermination de la stratégie. Et dans les questions de gouvernance dont vous avez parlé, il n'y a pas simplement la question des relations entre les autorités régionales et les départements, mais il y a quel est le rôle autonome ou en collaboratif que jouent les grandes agglomérations urbaines par rapport à cette stratégie.
Oui, je dirais la question elle est fondamentale s'agissant de Rhône-Alpes. Elle trouvera peut-être des éléments de réponse dans les résultats de la démarche de prospective conduite par la région Rhône-Alpes qui s'appelle la démarche Rhône-Alpes 21, puisque aussi bien la région Rhône-Alpes a favorisé une double prospective territoriale, une prospective territoriale participative en interrogeant les citoyens dans un certain nombre d'ateliers, et une prospective territoriale, je dirais, de nature institutionnelle, en demandant des contributions à des instances comme la nôtre, mais aussi à des conseils de développement, celui du Grand Lyon ou celui de Grenoble, etc. Et que peut-être on peut penser qu'à la fin, à notre parole se joindront d'autres paroles institutionnelles avec des points de vue forts, du moins on peut l'espérer, des grandes aires métropolitaines. Mais derrière cette question, il y a fondamentalement posé la question de la nature de la région. Est-ce que, j'évoquais tout à l'heure l'idée d'une région métropolitaine, d'une région qui s'organiserait autour des villes à une heure de Lyon et qui s'organiserait en réseau et qui s'organiserait en réseau complémentaire. Si je prends la situation que je connais la mieux, c'est-à-dire celle des universités, est-ce que l'on va vers une université de Rhône-Alpes ou est-ce que l'on va vers des universités qui seront concurrentes, mais peut-être en situation de coopération. Donc toute cette question, je dirais, de la nature de la région et de savoir si on va vers une véritable région métropolitaine, cette question, pour l'heure, il faut bien le dire, elle n'est ni tranchée, ni même d'une certaine manière suffisamment à l'ordre du jour. Alors que, de mon point de vue, elle détermine toute la question des relations entre les métropoles de Rhône-Alpes, de leur complémentarité, des modes de communication à établir entre elles, des coopérations à organiser. Donc là, c'est une question. Une des idées à laquelle nous songeons au sein du Conseil économique, ça peut être un élément de réponse, c'est de dire est-ce que la région, et en son sein une instance comme la nôtre, ne devrait pas être le lieu de la mise en commun des réflexions prospectives. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus les seuls tenants de la société civile organisée. Heureusement, il y a maintenant les conseils de développement, mais il y en a d'autres. Il y a aussi des prospectives qui se conduisent dans certains grands groupes, etc. Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de rencontre des think tanks rhône-alpins qui s'organiserait, je dirais, sous l'égide, à l'échelle de la région, sous la double égide du Conseil régional et du Conseil économique et social. En tout cas, on a besoin de ça. On a besoin de ça parce qu'effectivement, la question du fait urbain, bon, on la détaille un peu plus dans nos scénarios, mais on a des questions essentielles comme la question de la métropolisation, comme la question des infrastructures, comme la question de est-ce qu'on joue les grandes infrastructures, est-ce qu'on joue les infrastructures entre intercités. On a des questions essentielles comme toute la question de la métropolisation, de la périurbanisation, du foncier. Et toutes ces questions-là, elles sont bien portées par les villes.
Un portage de trop de dissémination aujourd'hui, trop de...
Ce qui rejoint encore en fait la réflexion autour d'un rôle d'animation que pourrait avoir la région. Et en particulier dans des domaines tels que celui-ci.
Une question, je crois, s'il vous plaît, monsieur.
Jacques Petit, je fais partie du Conseil de développement du Grand Lyon et on vient d'évoquer justement ces structures. Je voudrais faire part de réflexions que nous avons par rapport à ce que vous avez souligné comme une nécessité pour l'avenir, c'est-à-dire de trouver une complémentarité harmonieuse entre la société civile dite organisée et la participation citoyenne. Alors il y a bien entendu cette difficulté de terme sur lequel il n'est pas inutile de se pencher. Parce que, en fait, dans la société civile, nous avons, on peut dire, quels que soient les éléments de cette société civile, nous avons affaire d'une part à des actifs qui participent à long terme à des réflexions, et nous avons aussi, quelles que soient les catégories socio-professionnelles, des gens qui se lassent vite et sont simplement de passage. Alors, je voudrais vous faire part du raisonnement suivant. Nous pensons qu'il serait intéressant de remplacer le mot, le terme de citoyen non organisé ou société civile non organisée par le terme de citoyen non délégué. Je veux dire par là que les citoyens actifs, aujourd'hui, sont forcément plus ou moins organisés, même s'ils ne font pas partie de la société civile dite organisée. Je veux dire par là qu'ils font partie de réseaux, que les réseaux, aujourd'hui, c'est une forme d'organisation extrêmement importante, y compris pour des institutions les plus structurées. Et donc, je pense que si un dialogue devrait être instauré entre, justement, cette partie citoyenne qu'on a du mal à définir, il serait intéressant de s'appuyer sur cette différence de terminologie. Alors, juste pour terminer, bien entendu, cette partie que j'appelle, moi, non déléguée, n'est pas du tout en opposition avec celle qui est déléguée, qui représente une finalité ou d'association ou d'entreprise ou quoi que ce soit. La faiblesse de cette composante, par contre, c'est l'absence de structure de formation pour qu'elle puisse participer d'une manière efficace, justement, au raisonnement collectif qui peuvent permettre, au niveau d'une région, d'avoir vraiment une grande cohésion sur des projets d'avenir.
Merci. D'autres interventions ? Oui, madame. S'il vous plaît. D'accord. Ce sera donc la dernière question, effectivement. Merci.
Je suis Rachel Linossier, maître de conférence en aménagement et économie à Grenoble. J'avais juste une question un peu technique sur la manière dont vous avez procédé pour mener les réflexions prospectives. Justement, vous avez évoqué le fait que vous partiez du présent en héritage. Vous avez beaucoup évoqué aussi les questions de statistiques pour baser vos réflexions. Je voulais savoir quelle était la place que vous accordiez aux politiques publiques en cours dans votre démarche de prospective, puisque j'ai essayé de regarder un petit peu dans les documents. On retrouve un peu les principales compétences, le transport, l'enseignement supérieur. Mais je voulais savoir, justement, par rapport aux variables et aux éléments de contexte et de territoire, quelle était la place, en fait, accordée aux actions qui sont actuellement menées, au plan de mandat, concrètement, puisque c'est censé avoir des effets à plus ou moins long terme.
Oui, à la fin des fins, nous avons rendu un document qui fait quelque chose comme 250 pages, ce qui est énorme. Mais ce qui peut peut-être être utile, parce que sur les 250 pages, on a à peu près 200 pages d'annexes. Et ces annexes, ce sont ce qu'on appelait, ta mère vous en a parlé tout à l'heure, nos fiches variables. Et nos fiches variables reprennent au moins sont autant de ces 30 synthèses, dont peut-être une vingtaine de synthèses sur les politiques publiques régionales, sur la politique d'intervention de la collectivité régionale. Alors, ces synthèses se présentent en termes de rétrospective, en termes d'analyse, en termes d'hypothèses d'évolution. Et c'est ces synthèses, c'est ces fiches variables qui ont été les matériaux avec lesquels nous avons construit petit à petit nos scénarios. Mais l'utilité de ces synthèses, et c'est pour ça que nous avons hésité, mais que finalement nous sortons ce document un petit peu volumineux, l'utilité de ces synthèses, eh bien, c'est que finalement, d'une part, elle dit, c'est quoi les matériaux que nous avons utilisés, et on peut penser que ces matériaux qui ont été préparés par les services du Conseil économique et social sont des matériaux utilisables par d'autres.
Bruno Lacroix, pardon, il nous reste une minute pour accomplir un parcours de 17 ans. Une minute.
Une minute. Je vais remercier M. Charpin de ses félicitations. Venant de lui, nous en sommes très touchés. Et dire que c'est probablement le meilleur encouragement que nous puissions avoir pour continuer à partir du premier travail qui vient d'être réalisé. Continuer en nous appuyant sur de la méthode, puisqu'on s'aperçoit que la méthode est un support indispensable à un travail de ce type-là, pour continuer des travaux en interne dans la section prospective, probablement voir comment nous pouvons nous ouvrir à d'autres représentations et les conseils de développement particuliers. D'ailleurs, nous présentons nos travaux au Conseil de développement du Grand Lyon au mois de janvier et examiner comment nous pourrions échanger un peu plus dans ces réflexions prospectives, puisque le Grand Lyon avait initié d'ailleurs par son Conseil de développement un travail de prospective bien avant celui que nous avons entrepris. Donc il y a déjà des expériences. Et petit à petit, peut-être faire la boule de neige dont parlait Bernard Pouillet, qui est petit à petit regrouper toutes les réflexions prospectives qui peuvent se passer dans cette région, essayer de les mettre en commun et être de plus en plus utile au développement économique et social de cette région. Merci à vous tous d'être venus ce matin.
Merci, mesdames et messieurs. En quittant cet amphithéâtre, vous allez enfin pouvoir vous réchauffer.